C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Ce que tu ennuies dans les histoires, c'est quand il ne se passe rien. Et le pire qui puisse nous arriver, c'est quand on se dit « Oh là 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 là, il y a encore 7 ans à attendre, 3 portes à ouvrir, le temps qu'il se met à quitter des enfants, ça va prendre 3 quarts d'heure. »
Bonjour, c'est Charles Cécile. Et forcément, avoir des enfants, tout ça, une femme, c'est long, c'est que des histoires en fait. Rendez-vous aujourd'hui avec Gérard Potier, avec qui vous allez voir, le temps passe plutôt vite.
J'avais 2 ans, je venais de naître. Mon père n'était pas là, il était occupé. Il courait après son chien pour le tuer. C'était un très vieux chien. Il fallait le tuer. Et le chien l'avait senti, non que mon père soit un méchant homme, mais qu'il fallait qu'on le tue, car il pouvait donner des maladies. Zappi le chien, depuis qu'il avait vu mon père revenir en larmes de la chasse, sa petite chienne Rikita, morte dans ses bras, savait qu'il était un homme bon. Mais Zappi le chien, il voulait pas mourir, alors il courait autour de la maison et ma mère poussait. Et ma grand-mère qui lui donnait un coup de main pour la cuisine, elle était en bas de la ferme, elle tuait un lapin. Et le lapin criait car grand-mère était pas très douée pour tuer. Elle avait tout d'abord donné un coup de bâton sur la tête du lapin. Pouf! Loupé, avait dit le lapin, faut recommencer. J'ai pas le temps, avait répondu grand-mère. Faut que je prépare à manger. Puis grand-mère, avec son petit couteau, elle a enlevé les yeux du lapin. J'avais 3 ans, je venais de naître, c'était rigolo. J'avais jamais vu des yeux saigner, puis elle a dit, regarde bien mon petit Eric, on va maintenant lui enlever son petit manteau tout blanc. Ah, c'est sûr, a dit grand-mère. C'est comme pour toi quand t'enlèves ton pull-over. La tête, c'est plus difficile à passer. Je ne posais pas de questions, mais je crois bien que le lapin avait froid. Et c'est pour ça qu'il criait. Et papa croyait que c'était moi qui pleurais. Mais non, papa, c'était encore le lapin que grand-mère découpait en morceaux pour les faire cuire dans la casserole et ça sentait bon dans la maison.
Tu es conteur? Tu dis ça de toi?
C'est une appellation qui a bougé depuis le début. Quand j'ai commencé, je racontais des histoires, donc j'étais conteur. Et puis... À cause de la spécificité de ce que j'avais envie de raconter et puis aussi ma formation théâtrale, donc j'ai vite rajouté le mot comédien au mot conteur. Et puis parce que maintenant j'écris vraiment mes histoires, donc oui, c'est auteur, comédien, conteur, mais c'est pas pour accumuler les fonctions, c'est plutôt parce que ça me ressemble plus.
Rendez-vous au CLEM, m'a dit Gérard Potier. Ça sera le titre de l'émission d'aujourd'hui. Le CLEM, c'est une institution, c'est le Clémenceau, une très belle brasserie, à La Roche-sur-Yon, pas trop loin du Grand Air. Les gens y viennent d'ailleurs assez souvent manger des frites, voire des choses bien meilleures encore, boire quelques canons. Voilà. Alors donc, rendez-vous dans ce CLEM avec Gérard Potier. Gérard Potier, d'où ça te vient donc de raconter des histoires, toi?
Moi, je dis souvent que je suis à la fois donc fils de paysan. Ça, c'est pour l'univers dans lequel je vais petit à petit toujours chercher mes sources d'écriture, et plus encore maintenant. Mais aussi fils du théâtre amateur paroissial, du théâtre paroissial et de l'éducation populaire. Donc le déclencheur, il est à l'intérieur de ça, c'est-à-dire que ma mère faisait du théâtre, donc elle m'a laissé faire du théâtre plutôt que du football. Ça tombait bien parce que le football, j'ai toujours trouvé ça ennuyeux et je déteste ça. Tant pis pour mes copains que j'ai attendu des heures entières pour aller au cinéma, qui finissent leur match les dimanches après-midi. Mais ils étaient conciliants puisqu'à leur tour, ils aimaient bien que je les amène au cinéma. Donc c'était un échange de savoir de toute manière. Et puis ensuite, il y avait le théâtre amateur qui pour moi était une formation humaine fantastique. Je souhaiterais vraiment à des tas d'ados plus âgés, de faire du théâtre amateur, comme on fait aujourd'hui partie d'une chorale, comme on fait aussi partie d'un groupe de sport, de sportifs, sans se tracasser de savoir si on va être bon et si on va parler de vous dans le média. Ce qui est intéressant, c'est la formation humaine. Ce qui m'a amené, ce qui était le début d'éducation populaire, mes versions vendéo-vendéennes, on va dire, puisque c'était le théâtre paroissial, donc avec un petit côté comme ça d'un enseignement. Et puis ensuite, c'est l'éducation populaire via l'Union Poitou-Charentes pour la culture populaire. Et on est plein de danseurs, conteurs, musiciens, théâtre un petit peu moins, enfin en tout cas, à être des enfants de ce groupe où ça a été aussi un affranchissement politique au sens large du terme. C'est-à-dire, ça nous a permis de quitter, enfin moi, ça m'a permis de quitter mon enfance, mon éducation, d'aller dans une autre manière de penser, et puis aujourd'hui de savoir regarder plus loin et de regarder en arrière, parce que c'est à cet endroit-là que se fait la création pour moi.
Ok, mais cette transition du théâtre au conte, il y a eu un déclic ou pas? Tu as fait des rencontres, par exemple, de conteurs, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que du théâtre, tout d'un coup ou progressivement, tu t'attaches comme ça et tu deviennes conteur, quoi.
Non, il n'y a pas de transition. Moi, je me pense pas conteur quand j'ai commencé à raconter. Ce que je sais, c'est que c'est l'espace de la scène et puis l'adresse au public, quelque chose qui me plaît. Mais j'en connais pas les manières. Je sais pas comment on procède. C'est très intuitif, quoi. Donc, moi, je dirais plutôt que le déclic, c'est de se rendre compte que je savais faire ça sans savoir que je le savais, puisque je suis d'une famille où il y avait aussi beaucoup de tontons curés. Quand ils étaient dans leur travail, ils étaient un petit peu excessifs, un peu réactionnaires. Mais quand ils étaient à table chez nous, avec mes tantes, grande famille de causeurs, et c'était les meilleurs raconteurs d'histoire.
Hey, quelle chance on a d'aller au bord de la mer avec son père et sa mère. Moi, je me rappelle mon père, il voulait jamais qu'on y aille, parce qu'il trouvait qu'au bord de la mer, il y avait beaucoup trop de monde. Et ça, mon père, il aimait pas aller, il y avait trop de monde. Mais ma mère, elle avait tellement insisté auprès de mon père, que mon père avait fini par dire « D'accord, d'accord, on ira au bord de la mer ». Et papa avait décidé qu'on irait au bord de la mer le premier dimanche de juin. Vous savez pourquoi? Parce que, disait mon père, le premier dimanche de juin fait toujours beau. Alors, un dimanche matin, un dimanche de juin, mon père, il s'était renversé la bouteille d'eau de Cologne pour se coller les cheveux en arrière, et ma mère, avec son petit flacon de Narta, acheté au prix unique, un coup de pit, 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 pit. Elle était montée à l'avant de la voiture, moi et mon frère ont été montés à l'arrière, on était prêts à partir au bord de la mer. Quand tout d'un coup, je sais pas pourquoi, moi, il y a papa, il a passé sa tête à travers la vitre de la portière, il a dit « Stop, tout le monde descend !» Et pourquoi tout le monde descend, demandait ma mère. Parce qu'a dit mon père, avant d'aller au bord de la mer, faut d'abord changer les vaches de champ. « Non mais dis donc, dit ma mère, on n'aurait pas pu faire ça hier ou alors demain ?»« Non, a dit mon père. Et pourquoi non, a demandé ma mère. Parce qu'a dit mon père, cette nuit, l'herbe, elle a poussé. »« Dis donc, a dit ma mère, tu peux m'expliquer pourquoi l'herbe pousse plus vite chez nous que chez le voisin ?» Parce qu'a dit mon père, le voisin est un feignant, et tous ceux qui vont au bord de la mer, ça, c'est les feignants. Voilà, avec mon frère, vous savez ce qu'on a fait, parce qu'alors, on est sorti de la voiture, on a changé les vaches de champ, puis après, on est remonté dans l'auto. Ça y est! Alors papa, il a démarré la voiture, allumé la radio, et on est parti au bord de la mer. Quand papa a garé la voiture, nous on croyait qu'on était arrivé, mais pas du tout, pas du tout. Papa avait décidé de nous trouver un bord de mer où il n'y avait personne pour pas être dérangé. Alors on a été obligé de marcher 4 heures de temps à pied. Et au bout de 4 heures de marche, papa nous avait découvert un bord de mer que jamais personne n'avait encore trouvé sur terre. Vous auriez vu ça, au loin, une étendue de galets à perte de vue, et puis de mer, il n'y en avait plus. Mais papa, il n'y a pas d'eau. À vous, hein ? Commencez pas à m'embêter. Moi, je fais tout ce que je peux pour vous. Je me sacrifie pour vous, avec votre mère. Et c'est comme ça qu'on est remercié par ces enfants qu'on aime. Voilà. Avec mon frère, vous savez ce qu'on a fait, parce qu'alors, on est remonté à l'arrière de la voiture. On a ouvert le coffre. Dedans, on a pris les bouées parce qu'on les avait emmenées. Et les bouées, On les a passés. Vous avez raison, hein, dit notre mère. Comme ça, les enfants, sur les galets, si vous tombez, vous ne vous ferez pas mal. Puis après, avec mon frère, on a été obligé d'aller se baigner sur les galets. Ce qu'il y a de sûr, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a eu pied tout le long. Puis après, on est rentré à la maison avec dans les mains les 4 seaux de coquillages, de berniques et de palourdes que papa avait ramassés pour bien faire voir aux voisins que nous, même en vacances, on n'est pas des feignants. Quelle chance on a d'aller au bord de la mer avec son père et puis sa mère. Même si on se baigne pas, ça fait rien. Une autre fois. Et puis mon père était un raconteur d'histoires, mais pas au sens posé du terme. Tout le monde fantasme un peu sur le conteur qui a entendu des histoires au coin du feu. Tant mieux pour ceux qui s'y sont arrivés, tant mieux pour ceux qui ont eu des parents dans le désert, qui leur ont appris des histoires. Moi, je crois que si on doit devenir conteur, il y a quelque chose en soi qui fait son chemin. Donc moi, j'ai toujours écouté. J'ai toujours écouté ce que je ne devais pas entendre. Et puis ce que j'aurais dû retenir, je ne le retenais pas. Donc c'est vraiment le travail artistique, quoi.
Dans les histoires que Gérard Potier raconte maintenant, que tu racontes maintenant, et il y a beaucoup de choses qui viennent de loin, en fait, qui viennent de ton passé, de ta famille, c'est cela ?
Je crois que, enfin, quand j'ai côtoyé tous mes copains conteurs, conteuses, quand on a commencé il y a une quinzaine d'années, les Pepito Matteo, les Michel Hindenock, et que sais-je encore, bien d'autres, j'en oublie plein que j'aime beaucoup, on se regardait tous les uns les autres, et moi j'étais très fier de voir quelqu'un raconter avec son univers. Donc moi j'avais un univers, mais je crois qu'encore aujourd'hui, je le cherche encore. Il est là et je réveille une part de l'univers. Donc des fois, on est dans la salle à manger, des fois, on est dans la chambre, des fois, on est dans le champ. Enfin, moi, je peux très bien raconter une histoire qui est très, très loin de mon univers, dans la mesure où je peux me la réapproprier en écriture. Donc après, est-ce que j'ai des thèmes ? C'est toujours pareil, quoi. Chaque artiste, à un moment, est identifié avec une couleur. C'est le public qui lui donne sa couleur. Qui va lui dire « Ah, j'aime bien quand vous savez regarder les problématiques autour de la fratrie, de la transmission. » Je dirais que plus généralement, moi je crois que raconter une histoire, c'est toujours transmettre quelque chose. Donc, mon sujet principal, c'est la transmission. Jean-Pierre s'en rappelle bien. C'est la seule année où c'est arrivé à la maison. D'habitude, à chaque rentrée scolaire, sa mère achetait toujours à son frère aîné et à lui chacun une belle trousse. Mais cette année-là, elle leur avait dit qu'elle n'en avait pas les moyens, qu'il faudrait faire un petit sacrifice. Elle leur avait dit qu'elle achèterait une trousse pour tous les deux et qu'elle en partagerait équitablement le contenu. Ce qui fait que la veille de la rentrée scolaire, la mère, elle a acheté une belle trousse à Rabat. À Rabat d'ici, hein, pas à Rabat là-bas. Elle l'a dépliée sur la table de la cuisine. Dedans, il y avait 6 crayons de couleur, 3 chacun. 2 règles, une plate, une à bout carré. Chacun une. La gomme, la mère, elle l'a coupée en 2. Dans le sens de la longueur, pour que chacun ait un bout bleu pour les taches d'encre et un bout rose pour le crayon de bois. Il ne restait plus que le stylo plume. Il n'y en avait rien qu'un. Jean-Pierre en avait toujours rêvé. Puis, à ce moment-là, il y a le boulanger qui est arrivé en klaxonnant dans la cour. Puis vous savez ce que c'est que le boulanger. Si on sort pas tout de suite, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de pain. Alors la mère, elle a attrapé son porte-monnaie sur le coin du buffet. Puis elle a dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Pour le stylo plume ? Eh bien, tu le prendras, toi. Tu es le plus grand, tu es l'aîné, c'est normal. » Ouais, mais Jean-Pierre, c'est cette année-là qu'il en rêvait du stylo plume. Enfin bon. Le jour de la rentrée scolaire, Mademoiselle Agathe, l'institutrice, une peau de vache selon les anciens, elle les a fait mettre en rang, elle a attendu le silence, puis elle les a fait entrer dans la classe. Là, cette année-là, Jean-Pierre, il s'est retrouvé assis à côté de Denis Giraudeau. Et il était facile à reconnaître, Denis Giraudeau, parce que tous les ans, sa mère lui achetait une casquette neuve. Mais sa mère, qui en avait les moyens, lui avait acheté, pour lui tout seul, une belle trousse à rabat. Rien qu'à lui, les 6 crayons de couleur, les 2 règles, la gomme entière. Mais surtout, rien qu'à lui, le stylo plume.
Jean-Pierre, il en rêvait tellement qu'il lui arrivait de ranger le stylo-plume dans la trousse de Denis à sa place à la fin des cours. Un après-midi, Mademoiselle Agathe, elle a appelé Denis Giraudeau au tableau pour un exercice de calcul. Et il n'était pas doué, Giraudeau, ce qui fait qu'il est resté drôlement longtemps au tableau. « Eh bien, Giraudeau, nous attendons !» Là, pendant ce temps-là, il est passé une drôle d'idée dans la tête de Jean-Pierre. Il a eu envie de faire ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il a piqué, enfin, il a volé le stylo-plume. Puis, il l'a caché dans son slip, en se disant que là, personne viendrait le chercher. Grâce à Denis Giraudeau, la classe est directement passée du cours de calcul à la cour de récréation. C'est en revenant de la récréation que Giraudeau s'en est rendu compte. Il a dit à Mademoiselle Agathe qu'on lui avait volé son stylo-plume. « Qui a volé le stylo-plume ?» a demandé Mademoiselle Agathe. Comme le coupable ne se dénonçait pas, Mademoiselle Agathe a dit qu'elle verrait ça demain, mais elle a fait remarquer qu'elle n'admettrait pas d'avoir une classe de voleurs, qu'il y aurait des sanctions. À moins que le coupable ne se dénonce, auquel cas, on essaierait de passer l'éponge. Le lendemain, comme le coupable ne se faisait pas connaître, Mademoiselle Agathe a dit qu'elle verrait ça après le repas de midi, mais elle a fait remarquer une dernière fois que, si après le repas de midi, le coupable ne se dénonçait pas lui-même, eh bien, c'était très simple. Elle emmènerait toute la classe au poste de police, parce que là-bas, disait-elle, ils ont des machines à faire parler. Oh ! Jean-Pierre, il a eu drôlement peur. Il s'est levé, d'un seul coup, il a dit « C'est moi ». « Parfait !» a dit Mademoiselle Agathe. Elle l'a fait monter sur l'estrade afin que toute la classe le voie bien. Pendant ce temps-là, à son bureau, elle a découpé un carton, elle a accroché une ficelle au carton, et dessus, elle a écrit de sa très belle écriture de maîtresse « Je suis un voleur ». Puis elle a dit à Jean-Pierre « Tu vas passer dans toutes les classes de l'école, je t'attends à la récréation ». Alors Jean-Pierre, il a fait comme on lui avait dit. Il est passé dans toutes les classes de l'école avec sa petite pancarte accrochée à son cou. Le plus dur pour lui, il a dit Jean-Pierre, ça a été de passer dans la classe de son grand frère. Ouais, ça a été assez dur. Forcément, cet après-midi-là, Jean-Pierre, la récréation, il l'a passé dos au mur. De cette journée-là, Jean-Pierre se rappelle deux choses. La première qu'il se rappelle, même s'il n'est pas sûr, c'est qu'il a entendu Madame Favreau, l'autre institutrice, dire à Mademoiselle Agathe que, franchement, c'était bien faire beaucoup de cinéma pour une toute petite bêtise. Surtout que le gamin était d'une famille modeste et que c'était la première fois. L'autre chose qu'il se rappelle, Jean-Pierre, c'est que il avait tellement de chagrin d'être montré comme ça devant tous ses copains que il a fait caca dans sa culotte. Après, tout le monde a oublié cette histoire. Jean-Pierre aussi. Les années qui ont suivi, il n'y avait pas plus d'argent à la maison. Mais ça n'a pas empêché Jean-Pierre de bien réussir dans ses études. Tout d'abord, il a fait la fac de droit. Après, il s'est marié. Il a fait deux enfants. Il s'est établi. Il gagne très bien sa vie. Il est même devenu conseiller municipal. Il respecte les gens. Les gens le respectent. Bref, c'est quelqu'un. Le jour de ses 40 ans, Jean-Pierre, il avait invité tous ses copains de boulot, ses voisins pour une grande fête. Et là, sa femme, au moment de poser le gâteau sur la table, elle lui a offert son cadeau d'anniversaire. Un stylo-plume. Et Jean-Pierre, il a dit « Il est beau ». Et il a ajouté avec un stylo-plume comme ça « Je crois bien que je n'aurai plus le droit de faire des fautes maintenant. » Alors, on a remangé un morceau de gâteau, bu une coupe de champagne, chanté « Happy Birthday » et puis chacun est rentré chez soi. Je crois bien que c'est à partir de ce jour-là que Jean-Pierre a commencé à changer. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, non? C'est quoi, un ou deux mois plus tard? Jean-Pierre, il était vraiment réputé pour sa bonne humeur. Eh bien là, il n'était plus le même homme, il était devenu agressif, taciturne, renfermé. On aurait dit qu'il était inquiet. Un matin, Jean-Pierre, en allant à son travail, il est passé chez son libraire comme tous les matins. Et là, ce matin-là, il a vu sur le comptoir un présentoir avec un intérieur plein de beaux stylos plumes. Jean-Pierre, il en a attrapé une grosse poignée puis il est parti en courant comme un lapin. Ben, c'est bizarre, dit le libraire. Ben, Jean-Pierre, mes stylos plumes, s'il voulait les essayer, il aurait quand même pu me les demander. Bon, il devait être pressé. Ce soir-là, Jean-Pierre, il n'est pas rentré chez lui. Ni la nuit, ni le lendemain. C'est 2 jours plus tard qu'on l'a retrouvé. Sur un chantier dans la zone industrielle, il était pendu à une poutre métallique. Et lorsque les gendarmes ont descendu le corps, ils ont trouvé d'accroché à son cou une petite pancarte sur laquelle Jean-Pierre avait écrit à la plume « Maintenant, oui, je suis un voleur ».
Voilà, c'est rendez-vous au Clem. Tout de suite, Paolo Conte. Tout va bien.
Il y a beaucoup. J'avais travaillé avec François Rollin, notamment sur cette création d'histoire, autour des blessures d'enfants. Moi, j'ai toujours été fasciné dans les histoires, il y a toujours un handicap. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui a un handicap. Alors, il peut être physique, il peut être moral, il peut être sa place. Enfin, il a quelque chose à résoudre. Et moi, je trouve que l'homme a toujours quelque chose à résoudre. Et donc, il avance. Alors, nous vivants, on sait que humains, on sait que l'âge nous permet de comprendre des choses. Mais quand on est petit, on cherche quoi. Et donc, dans Bord de mer. Il y a l'histoire d'un gamin, par exemple, qui vole un stylo plume à l'école, non pas parce qu'il est voleur, mais parce qu'il en a envie, et que ses parents, sa mère n'en a pas les moyens. Donc là, il y a un sujet intéressant. Et puis il va finir par cette histoire, il va être humilié à l'école par la maîtresse, parce qu'il a volé un stylo plume. Enfin, ça, c'est les choses de la vie. On a des épreuves quoi, à traverser. Puis après, ce qui nous intéresse avec François, on est entre la nouvelle et le conte. C'est de retrouver ce héros à un âge mûr où d'un seul coup sa blessure d'enfant se rouvre. Voilà quoi. Donc, ça, c'est des histoires. Moi qui me. Je trouve que c'est une parole. J'aime bien travailler en parole. Avoir une parole subversive au sens politique. Pas du militantisme, mais du regard sur la société quoi. Interpeller le public. Quand quelqu'un vient vous dire, j'aime pas du tout ça, parce que c'est inconfortable, et quelqu'un d'autre dit, ah, si, au contraire, alors ça, c'est pile mon histoire. J'adore ce que vous avez mis en mots, quelque chose qui me traverse.
Nous sommes installés avec le conteur Gérard Potier à l'étage du Clem, dans une brasserie donc de la Roche-sur-Yon. Gérard, tu racontes assez peu les contes traditionnels. Pourquoi ?
J'ai en magasin des histoires que j'aime beaucoup, qui font partie de la grande tradition, des mythes que je relis sans arrêt. Mais moi, je me sens pas capable de les raconter. Je me sens pas capable, au sens intime, de les raconter. J'attends un peu que ça se fasse. Et puis ensuite, la transformation se fait toute seule. Je cherche pas à ne pas raconter ça ou ça. Mais si, par exemple, je veux exprimer le désarroi d'un enfant qui trouve que le monde est injuste et qu'il n'y a que son chien qui peut comprendre ce qui lui arrive, tous les enfants du monde, depuis qu'ils sont nés, ont eu un animal fétiche. Ça peut être un perroquet, je ne sais pas. Un petit lapin, aujourd'hui, c'est la mode des hamsters, ces petites bestioles là, qui tournent sans fin dans une cage. Mais en tout cas, peu importe. L'enfant, c'est éternel, a besoin d'un... C'est l'animal. Il ne proteste pas. Il acquiesce, dans le meilleur des cas, enfin on pense qu'il acquiesce, il écoute. Et donc, on va retrouver ça dans plein de contes traditionnels. Moi j'ai souvent raconté le taureau bleu devant des enfants il y a quelques années. Dans le dernier spectacle, j'ai repris quelques figures du conte merveilleux. Mais je les ai complètement désossées, habillées avec mes costumes.
C'est celui-là qui correspondait à ce que tu voulais dire à ce moment-là.
C'est des outils de travail. Dans, par exemple, Mildiou, l'enfant du champ de patates, qui est le dernier spectacle que j'ai écrit, je voulais travailler sur la place dans la fratrie, la naissance du deuxième enfant, ça peut être du troisième. Et puis très vite, je me suis rendu compte que, d'abord, moi je connaissais bien les mythes bibliques, parce que d'éducation catholique, on les a appris, et Dieu merci, c'est superbe. Et je me rappelais que ça m'avait beaucoup ému quand on avait appris à l'école l'histoire de l'enfant prodigue. Celui qu'on embrasse, alors que c'est celui qui est parti. Et donc il y a plein de compréhensions possibles. Moi je mets de côté le religieux. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pu raconter ma propre histoire, appuyée, adossée, au gigantisme des mythes. J'ai envie de vous emmener faire un tour en mer de Chine. Vous vous rappelez sûrement. C'était il y a quelques dizaines d'années déjà, de ces centaines, de ces milliers de bateaux qui naviguaient en mer de Chine. Enfin, qui naviguaient, qui flottaient en mer de Chine. Et puis je dis des bateaux, non, c'était des rafiots, des semblants de rafiots, sur lesquels s'entassait une foule d'hommes, de femmes, d'enfants, qui avaient fui le Cambodge et le régime de Pol Pot. On les appelait les « boat people ». On ne sait pas exactement combien il y en a qui sont partis, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés. Dans ceux qui ne sont pas arrivés, dans le meilleur des cas, ils sont morts noyés, quelques-uns sont morts de faim, d'autres se sont entretués.
C'était pas exactement ce qu'on appelle une promenade de santé. Mais dans cette loterie de mauvais goût, on pouvait quand même tirer le bon numéro. C'était le cas notamment où on était repéré par le bateau d'une organisation humanitaire. Voilà l'histoire vraie de vraie d'une de ces embarcations de fortune dérivant en mer avec une quarantaine de personnes à son bord. Ça fait un mois qu'ils ont quitté la terre ferme. Ça fait 10 jours qu'il n'y a plus rien à manger. C'est vous dire s'ils sont dans un sale état. Il y en a même quelques-uns, ils ne sont plus en état du tout. Mais pour les survivants, la chance a voulu qu'ils croisent un bateau de médecins du monde. À bord du bateau, on a repéré les naufragés. On a mis un canot à la mer pour aller les récupérer. On les a embarqués les uns après les autres sur le canot. Et les trois derniers qui restaient à bord du rafio, c'était 3 enfants. 11 ans, 7 ans, 4 ans. 3 frères et sœurs qui se tenaient par la main. On leur a fait signe de venir. Ils sont venus se tenant par la main. On les a embarqués sur le canot, toujours attachés par la main. Et quand le canot est retourné au grand bateau et que l'on a hissé tout le monde sur le pont, les 3 gosses, ils se tenaient toujours par la main. Quand les infirmières ont essayé de les séparer gentiment, juste pour leur donner à boire, elles n'ont pas réussi, ils ne voulaient pas se lâcher. Alors, elles leur ont parlé doucement, longuement. Les gosses se sont décontractés. Ils ont bien eu l'air de comprendre, mais ils ne voulaient pas se lâcher. 1 ou 2 heures plus tard, il y a même 2 médecins qui ont essayé de les séparer. Ils se sont mis un de chaque côté pour tirer, gentiment, hein, mais fort quand même. Rien à faire. Les 3 gosses, ils étaient comme soudés. Leurs mains n'étaient pas collées les unes aux autres. Il n'y avait rien de miraculeux là-dedans, médicalement parlant, non. Ils se tenaient, c'est tout. Et même quand le bateau est retourné à terre, impossible de leur faire lâcher les mains. Et on ne trouvait pas d'explication. Pourtant, il y en avait une. C'est que lorsque leurs parents les avaient installés sur le bateau, comme ils n'étaient pas sûrs de les revoir, ils étaient même plutôt sûrs de ne jamais les revoir. Il leur avait dit, « Les enfants, peut-être on ne se reverra pas, mais c'est pas triste, » il avait dit le père, « parce que vous partez pour une nouvelle vie, alors maintenant vous êtes des grands. » « Il y a une chose qu'on vous demande, » elle avait dit la mère, « une seule chose, ne vous séparez jamais. » Eh, attendez, c'est pas triste, ce que je vous raconte là. Elle est pas triste, mon histoire. C'est de l'amour, tout simplement. Ah, mais je sais ce qui se passe. C'est toujours pareil avec les histoires tristes. Quand on vous raconte que des gens ont été massacrés à la machette, violés, égorgés, quand il y a du sang et des larmes plein l'écran, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le petit rideau qu'elle a. On se cache les yeux, on se protège, on se défend. Ça fait trop mal. Moi, je trouve que c'est normal. Tandis que dans mon histoire, il y a quand même rien de triste. Il y aurait même comme un petit rayon de soleil. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se détend? On se laisse aller? Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on reprend tout dans la figure.
Compte là dans ce monde moderne, dans ce monde où tout va de façon trépidante, la parole, quelle est son importance et quelle est l'importance finalement de ce que véhiculent les conteurs?
Mon Dieu,
vaste question.
C'est-à-dire que je pense que ce que véhicule un conteur, une conteuse, c'est peut-être au fond comme à la télé parfois, c'est-à-dire que c'est éphémère, fugitif. On vient de voir quelque chose. Ça peut être la publicité pour un film qu'on irait bien voir, pour un livre qu'on devrait bien lire. Vite, il faut qu'on note le titre. Ou pour toute autre chose, quelque chose qu'on a envie d'acheter. Et puis, c'est parti. Parce que ça va vite. Et puis en même temps, quelque chose s'est imprimé dans le cerveau. Quelque chose a existé, ça a fait naître une image. Moi, je dirais que les conteurs, c'est pareil. C'est-à-dire, on ne sait plus très bien comment l'histoire a commencé, mais alors ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à cet instant précis, en entendant cette personne devant nous dire quelque chose en nous est né, une image, quelque chose. Et je pense que ça, c'est quand même une antidote au balayage incessant d'informations et tout ça, parce que ça s'inscrit dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Mais j'allais dire, toutes les formes artistiques, quand elles sont réussies, quand elles atteignent leur but, font ça. Enfin, je pense qu'on peut très bien aller voir aujourd'hui une peinture de Hopper, et non pas de Dennis Hopper, c'est l'acteur, mais le peintre Hopper, exposition au Grand Palais, et moi j'ai vu quelques peintures, je ne sais pas ce que ça me fait, mais c'est à tout jamais en moi. Hopper a mis une image en moi, quoi. Donc je pense que la parole des conteurs, elle est là. Alors en même temps, elle est désuète pour ceux qui ne l'écoutent pas. Et puis elle est incroyablement puissante pour ceux qui l'écoutent. Mais de toute façon, il n'y a personne qui dit « je ne veux pas entendre d'histoire », de toute manière. Alors après, il y en a qui veulent le conteur qui va avec, d'autres qui ne veulent pas trop.
Ouais, parce que quand même, beaucoup de gens pensent que franchement, un conteur qui raconte une histoire, bon, c'est un peu simple, non ?
C'est que c'est un art du simple qui est extrêmement complexe. Et donc, non, tout le monde n'y arrive pas, parce que tout le monde n'arrive pas à jouer Iago dans Shakespeare ou Othello. Je suis désolé, c'est pareil. Tout le monde n'est pas capable de tenir une histoire et puis de faire émerger tous les soubassements psychanalytiques, poétiques, mystérieux, inconscients. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les grands conteurs ont un répertoire. Au sens où ils peuvent re-raconter la même histoire, mais ils ne la re-racontent pas pareil, et pourtant ils la racontent pareil, mais ça c'est le mystère de raconter. Et tant mieux pour ceux qui ont des a priori, tant mieux que ça a l'air d'être simple, parce qu'on sait tous que ce qui est très simple, ce qui a l'air très simple est très compliqué. Quand on voit un champ qui vient d'être labouré avec, et puis des sillons bien faits par le paysan, et puis une culture, on se dit, ouais. Puis c'est très compliqué. Coluche disait, on ne peut se moquer d'un jongleur que si on sait jongler. Oui, il a raison. Moi, quand je regarde un jongleur, je me dis, peut-être que je pourrais y arriver. Ça a l'air de te... Non, il jongle depuis qu'il a 3 ans. Voilà, c'est tout.
I don't want to work away, doing just what they all say. Work hard, boy, you'll find one day you'll have a job like mine. 'Cause I know for sure nobody should be that poor. Say yes, sink low, because you happen to say so, say so, you say so. I don't want to work away, doing just what they all say. Work hard, boy, you'll find one day you'll have a job like mine, job like mine, a job like mine. Be wise, look ahead, use your eyes, he said. Be straight, think right, but I might die tonight.
Un copain, il était responsable syndical dans son entreprise, une grande usine qui fabriquait des roulements à billes. Et il avait l'habitude de dire aux collègues dans les réunions syndicales, hey « Eh les gars, dans la vie, il n'y a pas que le cul, la bouffe et la télé, faut aussi penser aux nourritures de l'esprit. » Et lui, mon copain, il voulait organiser des expositions de peinture dans l'entreprise. Ça n'avait pas l'air d'emballer les collègues. Mais comme il voulait bien s'en occuper, les autres ils lui ont dit, « t'as qu'à le faire !»
Le copain en question, il s'est décarcassé comme un fou. Il est allé voir le patron. Il a obtenu qu'on lui prête une salle spéciale dans l'usine pour faire des expos. Et pour la première expo, il a trouvé un peintre, un petit maître italien, mais pas mal quand même, Mario Miradoli. Oh, il peint des espèces de ruines gréco-romaines dans les tons de rouge rosé avec des trucs à l'intérieur. On ne sait pas bien si c'est des femmes ou des sapins. C'est assez spécial. Enfin, peu importe, c'est assez culturel quand même. Le week-end qui a suivi, mon copain, avec ses petites mains, il a accroché toutes les toiles de Miradoli dans le local qu'avait prêté le patron. Pas payé? Non, juste pour défendre le droit des ouvriers à la culture, comme il disait. Et les jours suivants, à la pause de midi, c'est lui qui tenait la permanence de l'expo. Faut dire qu'il venait pas grand monde à l'expo Miradoli. Ça avait pas l'air de passionner les foules, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en avait quand même deux, un grand et un petit. Deux soudeurs qui bossaient ensemble sur le même poste. Ceux-là, ils s'y étaient intéressés, et puis pas qu'un peu, parce que ils y venaient tous les jours. Ça, mon copain, ça lui réchauffait le cœur. Il me disait, tu vois, même si c'est que pour ces deux-là, je ne regrette pas ma peine. Ils y passaient tous les jours, pas loin d'une demi-heure. Ils se mettaient devant un tableau, et puis ils se parlaient. Alors, au bout de 3 semaines, mon copain, il a eu envie de savoir ce qu'ils pouvaient bien se dire, les deux soudeurs. Ce qui fait que, ce midi-là, il s'est approché discrètement par derrière et il a entendu le grand qui disait au petit « Mais tu vois, là, il y en a pour des sous. » Donc c'est compliqué parce que quand j'ai des gens en formation, ceux qui s'y intéressent vraiment, ils posent la question de la langue du conteur. Et cette langue du conteur, elle est ni belle, ni pas belle, ni grandiose. Elle doit être la langue du conteur. Et c'est compliqué. D'ailleurs, même les auteurs de textes disent très bien que il y a ce que chacun doit écrire, cherche à écrire et est au plus proche de lui-même. Pour ce qui est de l'oralité, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous dites que dans cette histoire, il y avait un petit chemin bordé de violettes, vaut mieux savoir de quoi on parle pour dire qu'il y avait un petit chemin bordé de violettes. Parce qu'il y a, pour moi, il y a un conteur comme Henri Gougaud qui peut dire que le petit chemin était bordé de violettes. Parce que Henri, c'est de quoi il parle. Enfin, je veux dire. Puis c'est sa langue, c'est son écriture. Il a une écriture magistrale. Et que donc, il n'y a bien qu'Henri qui doit écrire comme Henri. Et les autres conteurs ne doivent pas écrire comme Henri. Moi, j'ai accepté, intimement, d'écrire maladroitement. Parce que sinon, je me censurais. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand on travaille en écriture avec des auteurs, moi, je fais un travail d'écriture parallèle à côté, pour chauffer la plume tout le temps. Ce qui est le plus dur pour, j'ai travaillé avec Philippe Rollet, qui est décédé malheureusement maintenant, avec qui j'avais co-écrit un spectacle. Il dit, mais le plus dur, Gérard, c'est de commencer. Et puis, c'est de ne pas se censurer.
Tu parlais tout à l'heure de passation, tu parlais de transmission. Tu encadres déjà pas mal de formations.
Oui, il y a pas mal de demandes de formation. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que à chaque fois, je me demandais si moi-même, j'aimerais assister à mes propres formations. Donc, ça m'a rendu un peu humble. Je ne sais pas si maintenant, je fais des formations de qualité, mais en tout cas, il y a de la demande. Et puis, moi, j'y prends du plaisir surtout. Et dès que je prends plus de plaisir à faire des formations, moi, j'arrête. Il n'y a pas d'obligation d'être dans la pédagogie tout le temps.
Alors, il semblerait qu'il y ait un projet de création, en fait, d'une classe destinée aux arts du récit, aux contes. Je ne sais pas comment on dit exactement pour en ce qui concerne ce projet, mais auprès du conservatoire de La Roche-sur-Yon. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, voir donc à quoi cela correspond, en fait, ce projet chez toi?
Mais en tout cas, c'est une proposition faite par Alain du conservatoire, le professeur de théâtre. Et parce que il a pris ses fonctions il y a un an, je pense, à peu près, je sais plus. Donc on a échangé tout simplement. Et il est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait aucune demande du conservatoire. Non pas qu'il ne le voulait pas, je pense qu'il n'y a pas d'animosité particulière, mais comme toujours, ça ne se fait pas. Alors qu'en fait, les comédiens, futures comédiennes, moi je crois que parce que j'ai fait du théâtre, connaître son... C'est un des moyens de se connaître. aussi travailler l'oralité, travailler le récit, travailler le conte, être capable de laisser aller sa pensée tout en la maîtrisant. Donc à partir de là, Alain m'a demandé de réfléchir à un atelier, donc on va faire un test pour cette année.
Ça serait un sous-ensemble, en fait, ça serait contenu dans la formation d'art dramatique.
Tout à fait. En fait, on va faire une première ébauche. Je vais prendre la classe d'art dramatique sur 2 week-ends, je crois que c'est comme ça que c'est prévu. J'ai carte blanche, les amener à je ne sais pas comment on va travailler, à l'écriture, au récit. En tout cas, moi, je vais aborder complètement différemment et le rapport au plateau, peut-être l'obéissance au metteur en scène, par exemple. Moi, j'aime bien questionner. Le metteur en scène est-il celui qui sait par-dessus tout? Moi, j'en suis pas si sûr, parce que ça fait du théâtre parfois extrêmement ennuyeux quand on a des comédiens pas libres. Alors, je milite pour la formation. C'est important aujourd'hui, parce que sinon, on ne s'en sort pas, quoi. Mais... En tout cas, moi je vais venir mettre un peu de bouse sous la chaussure. Mais
qu'est-ce que tu espères à travers ça? Est-ce que tu penses que certains vont peut-être avoir, avec cette intervention de ta part, avoir l'idée de bifurquer légèrement?
Alors, j'allais dire qu'ils bifurquent. J'en sais rien, ça c'est pas du tout mon but. De toute façon, pour avoir posé la question à un prof de conservatoire, un ami, est-ce que tous tes élèves ont fait comédien? Non. De toute façon, parce qu'ils n'étaient pas tous doués. Puis surtout, le talent est encore une chose très partagée, mais il faut quand même avoir une sacrée force intérieure pour y aller. Pour être dans ce doute permanent. Il faut vraiment sentir qu'on est fait pour ça. Donc moi, je vais leur dire que personne ne les attend. Quand je m'adresse par exemple à des BTS force de vente, alors là pour le coup, j'ai un ancrage dans la réalité qui est magnifique.
Quelqu'un les attend.
Oui, puis il y a un ancrage, ils sont dans le réel. Tandis que dans notre milieu, il y a souvent... c'est l'institution qui fait ça, qui les met peu, à mon goût, mais je peux me tromper, j'espère que je serai critiqué là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il les met peu dans la réalité du monde économique, de la diffusion, de la vente de spectacles. Non, personne ne vous attend. Et oui, quand je suis à table chez mes parents, mon frangin avec ses problèmes de ferme, c'est plus important que ce que je fais moi. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient connectés à autre chose que la certitude qu'ils joueront au théâtre. Moi, ce qui est intéressant, c'est tu viens dire quoi au monde, même si c'est tout petit. Parce qu'à ce moment-là, si tu ne sais pas trop... Alors, on met toute une vie à identifier si on a une toute petite chose à dire, plaisante, drôle, émouvante parfois, réussie, qui sait. Ça met du temps. Mais j'ai assez d'énergie pour tenir là-dessus, même si je ne gagne pas toujours ma vie et même si c'est dur. J'avais un copain, il voulait faire une grande fête pour son anniversaire. Puis comme sa maison n'était pas assez grande, je lui ai dit, écoute, t'embête pas. Bah parce que moi, j'ai un cousin, il a une grande baraque à la campagne. Je sais qu'il part en vacances avec sa femme pendant une semaine. Écoute, je veux bien lui demander s'il veut pas nous prêter sa maison pour une soirée. Et le copain en question, il a dit, ça serait chouette. Là-dessus, je demande à mon cousin, qui a tout de suite dit, ok les gars, pas de problème, seulement faites pas les cons. Ma baraque, c'est peut-être pas un palace, mais j'y tiens. Alors le copain, il a organisé tout le truc, il a fait ses petites courses, il a ramené sa sono, puis on s'est retrouvé là-bas à une quarantaine et en avant la zizique. Puis, dans la soirée, il y avait un des copains, des invités, qui avait emmené son chien, une espèce de bâtard à moitié berger allemand. Alors le chien, pour pas qu'il nous danse dans les pattes, on l'a mis dans le jardin. Là-dessus, la soirée se passe, et puis... Sur les coups de 2h du matin, on était tous un peu chicorés, on s'apprêtait à rentrer à la maison, et qu'est-ce qu'on voit à travers la fenêtre du salon? Le chien de l'autre zouave, qui se ramène avec un lapin mort dans la gueule. On se dit, mais il a trouvé ça où, ce Kléber? On est sorti, et puis là, on a compris. Parce qu'on a vu au fond du jardin un clapier vide. Merde, j'ai dit, les mecs, il a bouffé le lapin de mon cousin. Ça, écoutez les gars, ça va pas lui faire plaisir. Alors le copain, dont c'était l'anniversaire, il a dit « Écoutez les gars, vous engueulez pas, j'ai une idée, je sais ce qu'on va faire. » Le lapin, on va bien le nettoyer, on va le remettre sur son petit tas de paille, puis comme ça, ils croiront qu'il est mort d'une crise cardiaque. Alors là-dessus, le lapin, on l'a nettoyé, Sophie qui était coiffeuse l'a séché au sèche-cheveux, on l'a remis dans son clapier, on a rangé la baraque à mon cousin. Ni vu ni connu, mon ami, je t'embrouille. et chacun est rentré chez soi.
Puis, une ou deux semaines plus tard, je recroise le cousin en question, je lui dis « Alors, ça va ? On t'a pas trop salopé ta baraque ?» Il me dit « Non, c'était nickel. » Puis en même temps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas l'air d'aller. Alors je lui demande « Sinon, alors, le voyage, ça s'est bien passé ?» Il me dit « Ouais, pas de problème. » Je lui dis « Mais dis donc, mais t'as pas l'air d'être dans ton assiette. » Ah, il me dit « Non, c'est pas ça, c'est ma femme. Oh, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade ?» Il me dit « Non, c'est pas ça, mais il lui arrive un drôle de truc. » « Ah, ben vas-y, raconte. » « Ah, il me dit non, laisse, c'est des histoires à la con. Vas-y, accouche. » Il me dit « Bon, voilà. Ma femme, elle sait pas pourquoi, mais apparemment, il y a des gens qui lui en veulent. On lui a fait une sale blague. »«
Ah bon ? Quel genre ?»
Il me dit « Tu sais, elle avait un petit lapin que je lui avais offert en janvier, puis tu la connais, elle s'y était attachée. » Et manque de bol, le petit lapin, il est mort une semaine juste avant qu'on parte en vacances. Alors, elle l'a enterré dans le jardin. Eh bien, il y a des mecs à Sévislard qui sont venus pendant qu'on était partis, qui l'ont déterré, qui l'ont nettoyé et qui l'ont remis dans son clapier. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui se disent « C'est bizarre, on la connaît cette histoire ». Ils se disent qu'ils ont un bon copain qui leur a raconté la même histoire. Il a dit que c'était l'anniversaire de son beau-frère, oui, qui était qu'il a tout vu. Ouais. Alors évidemment, ceux-là, ils se disent, attendez, une histoire pareille, elle a quand même pas pu arriver 250 fois. Non. Vous avez raison. C'est parce qu'elle est bidon, cette histoire. Elle n'est pas arrivée, puis elle n'est pas non plus arrivée au copain qui vous l'a raconté. Non, je me suis renseigné, c'est une rumeur qui court un peu partout. Avec une constante. Celui qui vous la raconte vous jure toujours la main sur le cœur qui y était qu'il a tout vu. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, alors maintenant pour les autres, pour tous les autres. Pour tous ceux qui ne la connaissaient pas encore. Si dans pas longtemps vous avez un copain, un ami, qui vous raconte à la fin d'un bon repas, la main sur le cœur, l'histoire vécue du chien et du lapin, lui dites pas que je vous ai mis au courant. Laissez-le faire. Laissez-le raconter. La baraque, la zizique, le chien, t'auras vu ça avec Sophie, on s'est marré. On l'a nettoyé, on l'a fait sécher, on l'a remis dans son clapier, tu me crois pas, mais c'est que si je te crois, t'es la baraque, la zizique, le chien, le lapin, la baraque, allez, on s'est marré avec Sophie, toi, on l'a fait sécher, la baraque, on l'a fait tourner, la baraque, la zizique.
Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux, que sont ces lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux. Je ne sais pas pourquoi le vent s'amuse dans les matins clairs à colporter ses rires d'enfant, carillons frêles de l'hiver. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la route qui me pousse vers la cité a l'odeur froide des déroutes de peupliers en peupliers. Je ne sais pas pourquoi le voile du brouillard glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la ville m'ouvre ses remparts de faubourg pour me laisser glisser fragile sous la pluie parmi ses amours. Je ne sais pas pourquoi ces gens, pour mieux célébrer ma défaite, pour mieux suivre l'enterrement, ont le nez collé aux fenêtres. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi ces rues s'ouvrent devant moi une à une, vierges et froides, froides et nues, rien que mes pas et pas de lune. Je ne sais pas pourquoi la nuit, jouant de moi comme guitare, m'a forcé à venir ici pour pleurer devant cette gare. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas à quelle heure part ce triste train pour Amsterdam qu'un couple doit prendre ce soir, un couple dont elle est la femme. Et je ne sais pas pour quel port part d'Amsterdam ce grand navire qui brise mon cœur et mon corps, notre amour et mon avenir. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux, que sont ces lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore.
On parlait là tout à l'heure hors antenne de la prise de risque du conteur. Bon, j'ai entendu des gens qui peut-être n'ont pas écouté beaucoup de conteurs, mais qui pensent qu'un conte ne fait que répéter des vieux trucs, des vieilles rengaines, des histoires qui ne regardent plus personne, qui concernent plus grand monde. Voilà. Alors dans ce schéma-là, où est le risque? Où est le risque du conteur quand il raconte?
Je pense que moi j'ai des copains conteurs qui attrapent un récit. Qui n'a pas d'âge, et d'un seul coup, t'es collé, grâce à leur talent, t'es collé à la problématique, à ce qui te traverse. T'es avec lui. Il parle de quelque chose. Il parle, je pense à Hindenock, je pense à De La Salle. Je pense que le récit, le conte, regarde, au sens premier du terme, le conteur. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On fait un bout de route. Alors, moi, en tout cas, je sais qu'il y a des récits avec lesquels le bout de route, le conte m'a dit, bon, écoute, quand tu seras prêt, reviendra. Tu vois, ça, c'est des choses un peu comme ça, intimes. Non, on recommence. Alors, on recommence, et puis on sait, puis on s'approche, et puis on est avec. Je ne parle pas de savoir si c'est parfait ou pas parfait. Ce que j'appelle, la question que je me pose, mais pour moi aussi, la prise de risque, c'est-à-dire jusqu'où je vais. Je trouve que pour moi, il y a des chanteurs où je me dis, Barbara prenait vraiment des risques. Alain Leprest prenait vraiment des risques. Je ne sais pas comment, mais... quand il se met à chanter la chanson pour sa mère, quoi. Je reviens te parler doucement, sans bruit, sans applaudissement, dans ton maman. Donc, on est complètement... on est avec lui tout de suite. Le conteur, d'ailleurs, on est avec lui, tu dis, mince, par quoi il a commencé? Donc, la prise de risque, c'est autant... D'abord, dans la préoccupation, ce que j'aime bien, les conteurs pour moi aujourd'hui, c'est qu'ils savent parler des problèmes contemporains. Le conteur a toujours fait ça. Il parlait des peurs à l'époque de son temps.
Attends, est-ce que ça veut dire que maintenant les conteurs sont obligés de raconter seulement des récits de vie, des choses qui sont des storytelling, comme on dit, du conte-réalité?
Non. Non, puis en plus, c'est pareil. Les récits de vie, ça catégorise. Moi, je ne pense pas que je fasse du récit de vie. Au contraire, je fais ce que je peux pour porter mon récit de vie dans un récit universel, le plus mythologique qui soit. Ce n'est pas le récit de vie. Le récit de vie, c'est Christine Angot qui raconte ses histoires de fillettes. Je dirais que ce qu'il y a du récit de vie dans le conteur, c'est son oralité qui est vivante. C'est peut-être ça. On a l'impression que tout ce dont il parle, il l'a vécu. Je me rappelle de l'histoire du stylo plume à la fin, parce que quand même c'est une histoire avec Roland en plus. Alors voilà quelque chose qui n'était pas, puisque qui nous ramène à l'idée de qu'est-ce que le conteur, comment il s'implique. Voilà quelque chose qui n'était pas politiquement correct avec Roland, François Roland, qui n'était pas un conteur, qui aimait plutôt pas ça d'ailleurs. Moi j'aime pas ça et tout. Et puis comme il aimait pas ça, il a vachement aimé ça en fait. Et il me dit, j'aime pas qu'on me fasse avaler des trucs énormes, c'est tout. Alors c'était stupide qu'il ait ça comme idée, mais il est vrai qu'il y a des conteurs qui font avaler qui te foutent des machines à laver dans les arbres, t'as envie de dire, non mais ça va, quoi. Non mais on se calme un peu, tu vois, pas, non mais c'est du grand n'importe quoi. Et donc on discute, et puis c'est aussi un showman, donc il y a la parole, il y a le langage, il y a le rythme, il y a tout ça, et il dit, ah mais écoute, j'aimerais bien s'il y a un truc sur toi, écoute, cette histoire, si t'es d'accord, elle va se terminer très très mal. Et ça c'était pas correct, il y avait trois histoires qui se terminent très très mal, et moi j'adorais ça.
Gérard, merci. Gérard Potier, merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup.
Bon, vous l'avez bien compris, hein, on était avec Gérard Potier. Voilà. J'espère que vous en êtes rendu compte. conteur, Gérard Potier, auteur et aussi comédien. Alors vous pouvez retrouver un certain nombre de choses de lui, notamment je vous conseille le disque Bord de mer qu'il a fait avec Paul-André Mabi au piano et à la guitare. Vous trouverez aussi son livre Mildiou, l'enfant du champ de patates. Et puis voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus, vous faites les fameux www. Le bazar mythique tout attaché sur internet. Et voilà, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Gérard Potier. À bientôt, ciao.
Était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.